Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, vous invite aujourd'hui à vous pencher sur l'histoire de l'humanité, rien que cela. Avec pour guide un homme au savoir immense et qui fait appel à de nombreuses disciplines, Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Dans votre livre, Jean Béchler, Esquisse d'une histoire universelle, paru chez Fayard, vous faites en effet appel à l'archéologie, l'ethnographie, la démographie, l'économie, tout cela pour nous raconter l'histoire de l'humanité. C'est finalement une question assez simple, mais il faut quand même pouvoir y répondre. Comment l'espèce humaine est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Voilà la question que vous posez. Au fond, c'est la longue aventure de l'Homo sapiens sapiens. Quand commence l'histoire humaine, alors, à votre avis?
L'histoire biologique de l'espèce humaine, d'après les spécialistes, et je n'en suis pas un, commence il y a 100 ou 200 000 ans. Pratiquement, on a de renseignements archéologiques que sur les 35 derniers millénaires. Donc, je dirais que l'histoire de l'espèce se déroule jusqu'ici sur 35 millénaires. S'il est exact que notre planète a devant elle 5 milliards d'années jusqu'à l'extinction du Soleil, et si nous ne migrons pas vers d'autres étoiles, enfin planètes, dans notre galaxie ou vers d'autres galaxies, nous avons 5 milliards d'années devant nous. Autrement dit, nous n'avons même pas commencé notre histoire et il faut s'en persuader pour apprécier, je crois, convenablement et surtout adéquatement cet épisode, cet instant, si vous voulez, dans notre histoire.
Et alors, cette histoire, justement, d'abord, il faudrait qu'on s'entende bien sur le mot histoire. Vous prenez la précaution dans votre ouvrage de définir les deux mots histoire et universel, parce que ces deux mots, vous les prenez dans un sens qui n'est peut-être pas le sens courant. Alors, expliquez-nous d'abord.
Et j'en ajouterai un troisième, il y a trois mots. C'est une histoire universelle.
Voilà.
Alors pourquoi
c'est important.
Il faut préciser,
oui, oui.
Effectivement. Alors universel, il s'agit d'une histoire de l'espèce en tant que telle.
Oui.
Et donc je me suis d'emblée refusé à écrire ou à juxtaposer des chapitres consacrés à telle ou telle histoire d'une fraction de l'espèce humaine, comme on
oui,
fait généralement.
Oui, ce n'est pas une histoire événementielle, justement.
Il n'y a pas d'événement enfin, qui touche à proprement parler l'espèce tout entière. Donc il s'agit bien, de l'espèce humaine et non pas de telle population chinoise, indienne, européenne ou autre. Même si, bien entendu, il faut que ces populations apparaissent d'une manière ou d'une autre, à une occasion ou à une autre. Donc universel en un sens précis du terme. Histoire, pour moi, est défini par deux caractères centraux. L'histoire d'une espèce libre, c'est-à-dire qui n'est pas programmée génétiquement, est imprévisible, ce que j'appelle contingente. Et donc, on doit pouvoir repérer pour cette espèce des événements qui la concernent dans sa totalité et qui auraient pu ne pas survenir ou auraient pu tourner différemment. Mais deuxième caractère de cette histoire contingente, elle est intelligible. C'est-à-dire qu'une fois que ça a eu lieu, il est possible rétrospectivement de partir à la recherche d'explications pourquoi ça s'est passé ainsi et pas autrement. Et enfin, une histoire, du moment qu'il y a de la contingence, cette histoire aurait pu se dérouler d'une manière tout à fait différente. Autrement dit, je refuse l'hypothèse d'un programme qui aurait été défini au départ et qui aurait conduit en ce développement spontanément, mécaniquement, d'une manière déterministe, passé par les différentes étapes qui nous ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est vraiment une histoire
parmi d'autres,
une histoire contingente et intelligible, universelle de l'espèce.
Donc cette esquisse d'une histoire universelle, Jean Béchler, paru chez Fayard, dans cette esquisse, vous racontez donc que l'humanité, au fond, l'espèce humaine, est passée par divers stades. Alors si vous voulez bien, nous allons commencer par parler des deux premiers stades, le stade paléolithique, que vous appelez d'une histoire naturelle de l'espèce, et puis le stade néolithique, qui est le stade des histoires traditionnelles, c'est-à-dire des histoires où on fait entrer, où commence à apparaître la culture et les cultures. Alors d'abord, l'histoire paléolithique.
Permettez-moi tout de même de justifier cette tripartition qui n'a absolument rien d'original, si vous voulez. Je crois qu'à peu près tous les gens qui se sont occupés de ces questions tomberont d'accord qu'il y a trois étapes successives, massives. La première, la plus longue, qui a duré plusieurs dizaines de millénaires, et qui s'achève, non pas du jour au lendemain, mais par une transition de plusieurs millénaires, il y a environ 10 000 ans. Il se passe quelque chose un peu partout dans le monde dont il s'agira de rendre compte et qui, en 10 000 ans à peu près, conduit à la mise en place d'un certain nombre de grandes civilisations qui tendent à être incluses dans des constructions politiques gigantesques que l'on appelle couramment des empires. Et puis, il y a une exception. Il y a une contingence massive qui survient, à savoir que l'Europe ne suit pas le modèle que l'on constate un peu partout ailleurs. Et à l'occasion de cette exception, ont émergé un certain nombre de caractères tout à fait inédits que l'on a coutume d'appeler la modernité.
Voilà,
et qui pour moi, alors ça serait peut-être une thèse qui m'est plus personnelle, ou en tout cas qui m'est chère, pour moi, la modernité est l'équivalent de la néolithisation qui a affecté l'humanité il y a une dizaine de millénaires. Autrement dit, pour moi, la modernité, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir,
on en reparlera, oui,
n'est
bien sûr
ni une civilisation, ni le faciès d'une civilisation, en l'occurrence européenne ou occidentale. C'est un stade foncièrement nouveau, et qui introduit ou introduira dans l'histoire humaine et dans les histoires humaines quelque chose qu'il est tout à fait impossible de prévoir à l'avance et de préciser d'une manière quelconque. Nous sommes entrés dans de l'inédit radical.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est quand vous parlez des sociétés paléolithiques, qui ne sont pas encore des sociétés, qui sont plutôt des clans, des hordes, des tribus.
Non, pour moi,
peut-être,
ce sont des sociétés. Des sociétés humaines, des cultures humaines, parfaitement constituées, et qui permettent aux êtres humains, aux individus humains, de trouver un épanouissement complet. Autrement dit, dans ces sociétés les plus minuscules et les plus primitives, ou les premières, les plus archaïques, si vous voulez, il n'y a pas l'ombre d'un déficit quelconque en termes d'humanisation.
Et vous dites en plus que c'est une parfaite démocratie, alors que nos idées, ce serait plutôt que c'est un parfait communisme, si je puis dire, un communitarisme, en tout cas.
Oui, alors ce sont, comment dire, nous traînons tous dans nos têtes un certain nombre d'images ou de conceptions hérité du 19e siècle, dont il ne faut pas oublier que le paradigme dominant était évolutionniste. Autrement dit, on partait d'un point très déprimé pour enfin atteindre, après plusieurs millénaires, le stade que connaissait l'Europe. Enfin, en gros, c'est cela. On avait donc l'idée également de société au bord de l'inanition en permanence, ce qui est absurde d'un point de vue de l'histoire naturelle. Si vous voulez, une espèce animale qui vivrait pendant des millénaires au bord de la disparition, aurait pu peut-être apparaître sur l'arbre du vivant, mais aurait disparu immédiatement dans tout cela.
Surtout que c'est une espèce fragile, l'espèce humaine, vous le dites
d'ailleurs. Elle est démographiquement fragile,
elle est
en
fragile,
effet.
Oui.
En raison d'un certain nombre de contraintes, à la fois biologiques pour l'essentiel et féminines, je dirais, parce que ça concerne surtout les femmes, la dimension biologique de l'espèce humaine. Notre espèce est peu féconde les enfants, si vous voulez, sont très fragiles, avec comme conséquence que pendant des dizaines de millénaires, l'espèce a vécu juste au niveau, non pas du remplacement des générations, mais un poil au-dessus.
Si mais il s'en fallait de peu pour que ça survive.
De peu. Alors, il est hautement probable, mais nous n'en avons aucun témoignage archéologique, que des sociétés humaines ont disparu pour des raisons démographiques. Parce
mais
que
pas
ça,
l'espèce,
sont des moyennes.
Oui.
Mais l'espèce a occupé la planète grâce à ce tout petit plus et grâce également au fait que nous n'avons aucun prédateur. Autre image fausse que nous a légué le 19e siècle, nous aurions été menacés par des bêtes sauvages. Non, en fait, nous avons menacé tout le reste du vivant.
Continue. Un peu. C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, en effet.
Donc, le paléolithique, vous considérez que c'est, au fond, une étape dans l'histoire de l'espèce humaine, une étape naturelle. C'est la période de l'histoire naturelle où il n'y a pas encore, enfin, nous n'avons pas les traces d'une culture, d'une civilisation, d'une organisation sociale.
Je ne dirais pas cela, si vous voulez. J'ai pris histoire naturelle au sens où on parle d'une histoire naturelle des abeilles, des fourmis, c'est-à-dire j'ai pris une espèce qui émerge sur l'arbre du vivant, présentant un certain nombre de caractères distinctifs, et j'ai essayé de reconstruire à quoi devait ressembler les sociétés et les cultures humaines à ce stade originaire, si vous voulez. Alors, sur quoi se fonder pour essayer de reconstruire ? Sur l'imagination, le raisonnement, mais sur des données archéologiques, tout de même.
Oui.
Depuis 150 ans, les archéologues ont bien travaillé, beaucoup et bien travaillé, et sur des données ethnographiques. Alors, bien entendu, il faut les manier avec les plus grandes précautions, parce que postuler que ce qui a été observé au 19e ou au 20e siècle dans des sociétés, elles aussi demeuraient primitives ou retournaient à un stade primitif, donc les projeter dans un très lointain passé est pour le moins imprudent. Donc j'ai procédé, si vous voulez, en essayant de saisir quel était le noyau, si vous voulez, générateur de ce que l'on pouvait observer au 19e et au 20e siècle, et c'est ce noyau, donc, des sociétés humaines réduites à des schémas extrêmement généraux que je crois pouvoir constater ou pouvoir projeter avec une certaine confiance dans un très lointain passé. Alors, ce sont des sociétés complètes, mais des sociétés menues. 500 individus, 1000 au grand maximum, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes de communication qui ne permettent pas de faire vivre ensemble, tout simplement, plus de quelques centaines d'individus. Mais ces quelques centaines d'individus sont démographiquement en état de se reproduire indéfiniment. Cela suffit pour développer toutes les dimensions de ce qui constitue l'humanité, des dimensions politique, économique, je l'ai dit, mais religieuse également, ludique, il y a des jeux, il y a des danses, enfin, tout y est. Et donc, j'y insiste, ce ne sont pas des humanités mutilées.
Ni guerrières, d'ailleurs. Vous dites que la guerre leur est, au fond, étrangère.
Alors là, c'est une affirmation qui, confine à la certitude. Il n'y a aucun témoignage archéologique de guerre avant 10 000 ans à peu près. C'est un phénomène néolithique, si vous voulez, et donc intervient très tard dans l'histoire humaine. Donc l'affirmation que l'on trouve un peu partout, que la guerre est inscrite dans le génome humain, est purement et simplement fausse.
Voilà encore une idée fausse que Jean Béchler rectifie.
L'agressivité, c'est autre chose. Bien entendu, nous sommes une espèce agressive, mais beaucoup d'espèces animales le sont aussi.
Avec Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, nous évoquons et nous feuilletons au fil des pages son esquisse d'une histoire universelle parue chez Fayard. Nous venons de parler de la période et du stade paléolithique. Je vous propose la prochaine fois d'aborder le stade suivant, celui du néolithique. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement. À bientôt. Thank you.